Bonjour, bienvenue sur Section Rythmique. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Christophe Jacquin, qui est une des figures du samba en France. Il est à la fois sambiste, c'est-à-dire musicien de samba, professeur de percussion et co-auteur du DVD pédagogique Au cœur des batteries de Rio, une méthode sur le samba de Enredo. Jean-Christophe, bonjour.
Bonjour.
Jean-Christophe, quand et comment t'es venu cette passion pour la musique brésilienne ?
Alors, c'est pas forcément pour la musique brésilienne en soi, c'est pour la musique en général. De ma famille, on nous a toujours poussés. Moi, mon père travaillait dans le milieu musical, dans l'organisation. Donc, il nous a poussés depuis tout petit à écouter de la musique, mon frère et moi. Hein, Prokofiev, Pierre Leloup, ces choses-là, depuis tout petit, évidemment. Et puis des choses assez différentes. Et mon frère s'est mis à la batterie assez rapidement. Quand il avait 8 ans, il voulait déjà faire de la batterie quasiment. Donc, moi qui ai 6 ans de moins, j'ai depuis quasiment toujours eu une paire de baguettes dans les mains, ce qui m'a aidé à avoir du rythme. Donc, une ouverture musicale, un certain sens rythmique. Et puis, arrivé à l'adolescence, pour ne pas faire comme le frère, pour ne pas faire de la batterie, j'ai fait des percussions, et puis de fil en aiguille, par hasard, j'ai commencé les percussions cubaines, et je suis arrivé à faire des percussions brésiliennes. Un gars m'avait dit, tiens, il y a un cours, c'est super. Effectivement, ça m'a vraiment convenu, c'était mon truc, quoi. Et moi qui écoutais plutôt de la musique, du jazz progressif ou des choses comme ça, je me suis retrouvé à faire de la musique de carnaval, donc de guignol. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là ? Et puis non, c'est devenu mon truc, quoi. Ça devait plus correspondre à ma personnalité. Et puis en plus, c'était beaucoup moins dur. J'avais jamais mis les pieds dans un conservatoire. J'ai tout appris à l'oreille. Et ça m'a... puis voilà, la carrière a commencé comme ça.
D'accord. T'as été te perfectionner au Brésil ?
Ouais, assez rapidement au bout de 2 ans, hein, 3 ans.
Qu'est-ce que t'as tiré de cette expérience ?
Ah ben, y a un avant et un après, indéniable. Hein. C'est en France. Bon, à l'époque, en France, il n'y avait quasiment rien. Il y avait le groupe dans lequel je jouais, qui s'appelait Unidos da Tianicia, qui avait été monté par une musicologue brésilienne. Hormis ça, enfin, même là, les informations étaient un peu... On ne savait pas trop l'accord des tambours, les styles musicaux différents. Donc, et puis l'énergie, la précision. Donc une fois, et puis l'environnement social. Au retour, on n'a vraiment plus la même vision. On comprend vraiment ce qu'on faisait avant.
Tu enseignes les percussions brésiliennes, donc. Quel est ton public ? Quelles sont les attentes de tes élèves ?
Ah, alors, ça dépend des endroits. À la Cité de la Musique, on a différents horizons, dont le public traditionnel Cité de la Musique, qui est, pas pour tout ce qui est concert classique, etc., c'est plutôt des gens souvent d'un âge assez mûr. Enfin, c'est pas la majorité, mais on en a beaucoup. C'est la culture générale, on va dire. Et on a des batteurs, des fans du Brésil qui viennent ou pratiquer un truc qu'ils ont vu là-bas, qu'ils ont eu envie de jouer, ou bien pour les batteurs ou les percussionnistes classiques ou autres, se perfectionner à d'autres rythmes. Et puis, sur d'autres endroits, par exemple à Samba Academia, il y a ça, il y a ce public-là aussi, mais c'est surtout un public beaucoup plus jeune. Et là, on est plus dans le lien social, on va dire. Dans l'ambiance, la convivialité, on se retrouve, c'est bien. La percu, à la limite, c'est qu'un prétexte, c'est... Je dirais que pour une bonne moitié des gens, c'est qu'un prétexte à venir par curiosité, voir l'ambiance avec des gens, avoir du lien social, pas être enfermé chez soi devant la télé ou faire une activité. Ça peut être plus sympa que la piscine ou la peinture sur soi, c'est plus vivant, quoi.
Ça se rapproche plus du carnaval.
Oui. Il y a un peu cette ambiance dans les cours, pas trop. Moi, je sais pas trop quand même parce que. Après, ça part un peu dans tous les sens. Mais les gens sont beaucoup à la recherche de ça, on le voit. du côté un peu Club Med entre guillemets, ce qui mine un peu des fois, mais bon.
Quels sont les différents types de formations dans la musique brésilienne et quels instruments utilise-t-on pour ces formations?
Ah, c'est grand comme 16 fois la France. T'imagines le nombre de... Il y a 10 milliards de... Si on parle que des percus, déjà, c'est déjà un monde. Entre la musique de ville, la musique rurale, la musique religieuse, la musique populaire, carnaval ou autre. C'est impossible. Il faudra un quart d'heure pour parler de ça. Ah oui, non, il y a trop de choses. Basiquement, les grands styles, le semble.
On connaît la
batucada. On connaît sa version samba autour de la table façon pagode. On connaît le samba reggae, une version baïanaise de la batucada. On commence à voir le maracatu apparaître, qui est plutôt de Recife, qui est même complètement de Recife. Mais il y a d'autres choses. Il y a par exemple dans le religieux, il y a des mondes, il y a ce qu'on appelle le candomblé, qui n'a rien à envier au bata, que tous les percussionnistes... On a adulé, on trouvait que c'était le truc le plus extraordinaire qu'il y avait. Le candomblé vaut largement les bata, la santería cubaine. Il y a sa version récifense qui s'appelle le chango aussi. Et puis, dès qu'on voyage dans les campagnes, il y a des types qui sont en train en ce moment de collecter tout ça parce que ça a tendance à disparaître comme en Afrique avec l'urbanisation. Il y a un travail de collecte qui est fait mais qui est loin d'être fini encore. Et puis si on parle du Brésil, après il faut aller chez les Indiens où il y a aussi, à partir de quel moment c'est de la percussion, ça n'est pas les hochets, les grelots, c'est énorme. Mais voilà, basiquement il y a tout ça. Et puis il y a les musiques savantes, après il y a des orchestres classiques, il y a entre les deux, il y a le choro qui est c'est un peu de la samba savante un peu, hein. Il y a le baillon, le style c'est le forró. Avec triangle, zabumba, qui est une espèce de petit sourdeau plat, et accordéon, qui est super couru dans tout le centre et le nord-est, dans l'intérieur, pour tout ce qui est bal rural. Non, c'est énorme, hein, on peut pas...
Et quels sont les courants de samba issus des différentes régions du Brésil?
Ah, mais malheureux, mais il y en a encore. Non, il y a le samba. Et puis il faut voir dans l'histoire. Il y avait avant le pagode, il y avait le partido alto. Tout ça. Mais le samba, c'est plutôt Rio, même si on dit que c'est des fêtes. Ça a été. Il est né à Bahia, mais il a plutôt immigré à Rio. Il a pris son essor à Rio. À São Paulo, les paulistes essaient d'imiter les cariocas en général. Hein. Ils sont toujours avec un train de retard, donc que ce soit pour le carnaval, le pagode, plus ou moins à deux balles, ou le bon. Le samba funk qui est à Paris il y a quelques années, c'est rien d'autre que du rap. Hein. Dans le temps, il y a donc eu le partido out, il y avait le samba di break, il y a le samba canção, le samba chanson, avec les chanteurs c'est connu qui font des sambas, machin. Le samba exaltação, qui est le samba un peu qui va glorifier le Brésil ou telle école de samba. Le samba de carnaval, le samba de enredo. Il y a le samba, oula, j'en oublie certainement, je vais me faire taper sur les doigts. Il y en a tellement. Au nord-est, il y a plein de rythmes qu'on appelle samba aussi, mais qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec le rythme lui-même à Rio. Il y a le samba de caboclo, le samba de je ne sais pas quoi, mais le nom générique, c'est pour dire le rythme. C'est rythme de samba, rythme de coco, rythme de machin. Ils appellent ça samba au nord-est.
Quelles sont les principales différences entre la construction rythmique d'un morceau de samba et celle d'un morceau de type occidental ?
Ouf, bon, il n'y en a pas énormément. Les modes musicaux sont assez proches des modes européens, les modes harmoniques. C'est que du 4-4 tout le temps, même si ça s'écrit à deux temps, c'est souvent je pensais à quatre temps, jouer à quatre temps. Non, je vois pas. Il y a beaucoup de constructions différentes, que ce soit du samba chanson ou du samba dire ou du samba funk, les constructions vont être différentes, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir ici. Ou à de la salsa, ou. Basiquement, je veux dire, ça nous est moins étranger que de la musique chinoise ou balinaise, c'est sûr que ça nous raconte plus quelque chose.
Y a-t-il dans le samba une place pour l'improvisation ?
Ça dépend encore des types de samba. Par exemple, dans le partido out ou alors dans le pagode, historiquement, il y a un type qui balance un refrain, Et puis on brode à partir de ça, et c'est que de l'improvisation après. Toute l'assistance reprend le refrain, et les intervenants, les uns après les autres, prennent les couplets, complètement improvisés. Après, les instruments, bon, oui, il y a dans le pagode, faut que ça bouge un peu, il y a un petit peu, chacun est un peu soliste. Quand on arrive dans les grosses formations à 300 percus, il faut que ce soit un peu plus structuré déjà. Donc il n'y a que certains postes instrumentaux qui sont autorisés à la variation. Et même les variations maintenant commencent à être, pas écrites, mais imposées. Alors, tout le monde, tous les sourds de troisième font telle variation et point. Avant, j'aimais bien le côté un peu crade qu'il y avait dans le... Ça vivait un peu de l'intérieur, un répit qui se met à faire une phrase, tandis qu'à l'autre bout de la batterie, il y a deux sourdos qui se répondent, alors qu'il y avait trois caisses claires qui étaient en train de plus ou moins de faire un solo. Ça vivait un peu. Là, je trouve que ça a un peu pasteurisé le côté moderne des batteries des écoles de Rio, où ça va de plus en plus vers tout pareil, quoi. Tout... Ça sonne trop froid.
Et est-ce que la samba, est-ce qu'il se transmet uniquement par oral, ou est-ce qu'il y a aussi des partitions?
Pour la partie rythmique, on n'écrit pas, non, c'est que oral. Pour les parties chantées aussi, je crois que bien peu des chanteurs doivent savoir lire. Les guitaristes, oui, je pense qu'ils doivent de temps à autre céder avec un peu d'écrit. Mais là encore, on est dans un truc très spécial, hein. C'est la samba populaire, etc. Il y a des musiques très savantes aussi, hein. Il y a du baroque au Brésil, hein. Là, forcément, il faut que ce soit écrit.
Dans tes cours, tu chantes les rythmes comme on fait à la batterie. Est-ce que c'est monnaie courante dans les écoles de samba ?
Ouais. C'est comme ça que ça s'enseigne et même qu'on enseigne les arrangements. C'est même les onomatopées qu'on utilise, hein, c'est les mêmes. C'est les mêmes là-bas. C'est quasiment ce genre de son qu'ils utilisent. Ouais. Plus une gestuelle particulière aussi. Les arrangements sont très codifiés, bien sûr. Et on retrouve les mêmes codes d'une école sur l'autre, d'ailleurs.
Le samba est basé sur un jeu collectif. Est-ce que l'apprenti sambiste peut travailler son instrument individuellement de la même manière qu'un batteur travaille ses rythmes dans son coin ?
Ben, c'est même recommandé. Ben ouais. Ouais, au mieux, ouais. Ouais, ouais. Même si les trois quarts sont des feignants finis, puisqu'ils viennent, s'amuser un soir par semaine, c'est la soirée culturelle de la semaine. Voilà. Mais même comme ça n'empêche, il y en a qui le conçoivent comme la soirée, la sortie culturelle de la semaine, et qui quand même en réécoutent, ce qui est le minimum, réécouter ce style musical à la maison. Et puis après, évidemment qu'on doit bosser à la maison. J'arrête pas de dire, par exemple, pour ce qui est de la caisse claire, on arrive avec des gens qui n'ont jamais eu une paire de baguettes entre les pattes. Il faut quand même... on débite de la double croche à 150 à la noire... avec des accents, le mec qui a jamais fait de technique de batterie, il est un peu largué. Donc j'arrête pas de dire, achetez-vous une paire de baguettes, ne serait-ce que premier prix, entraînez-vous à la maison, faites du papa maman. Ouais, moi c'est comme évidemment comme ça que j'ai appris. C'est pas en jouant avec les gens. En jouant, t'apprends la patate, t'apprends à envoyer l'agnac, l'écoute, le tempo, mais tout ce qui est subtilité, technique et tout ça, non, il faut qu'il travaille à la maison, dans la mesure où vous avez envie d'approfondir l'histoire.
Vu de France, la samba est la musique traditionnelle brésilienne. Au Brésil, c'est une musique bel et bien vivante. Y a-t-il beaucoup d'évolution dans cette musique, ou bien au contraire, est-ce qu'elle est attachée à ses racines ?
Les deux, elle est attachée à ses racines. Bien sûr, on parle beaucoup des anciens, les vieux sont super respectés dans le milieu du samba, et la tradition aussi, mais ça n'empêche que ça évolue. Et l'environnement évolue aussi, par exemple, le pagode, qui est un peu l'évolution du partido alto, il y a eu des trucs, mais alors c'était de la variette à pleurer, tellement c'était nul, quoi. Dans les années 80, où ils se sont précipités sur les premières boîtes à rythme, où il y avait des sons synthétiques immondes, les écoles de samba, le fait qu'il y ait cet environnement de carnaval, de compétition, de gigantisme, de mafia, de fric, dépensés, ça joue aussi. Donc il y a maintenant naturellement le rythme a pressé avec le temps. Maintenant la même tendance, il a été à son paroxysme, on dirait, ces dernières années. On a tendance à rebaisser le tempo, pas banal. Il avait augmenté parce que les gars, les matériaux avaient évolué, la technique avait évolué, la NIAC avait évolué, puis il y avait, comme ils sont tous plus ou moins avec des ingrédients stimulants plus ou moins naturels ou plus ou moins synthétiques, ça a pas aidé à calmer l'histoire. Là, la tendance est à revenir à des tempos à peu près humains, parce que même les danseurs n'arrivaient plus à danser, enfin c'était trop. Donc il y a ça, l'évolution, il y a les arrangements, le tambourim qui est arrivé avec sa baguette en plastique. On s'est aperçu qu'on pouvait faire 10 milliards de trucs au tambourim. Il a commencé à piquer la vedette il y a une quinzaine d'années, où on les a mis devant, où il y a eu 10 milliards d'arrangements de tambourim. Et puis il y a eu des directeurs de batterie qui se sont mis à faire non plus un seul break par samba, mais deux, trois, puis quatre. Et puis plein d'autres directeurs se sont engouffrés là-dedans. Ce qui fait que bientôt on va arriver à les sambas, ça va plus être qu'un enchaînement de breaks, ça va être assez rigolo. Voilà, il y a ces évolutions là dans les autres musiques aussi. Il y a les influences du rap qui se fait assez sentir, abaya, où ils sont assez friands de ce qui vient de l'extérieur. Ils ont beaucoup bossé tout ce qui était musique caraïbe. Ils ont aussi des connexions avec toute leur trip de négritude, ils ont beaucoup de connexions avec l'Afrique, donc ils y retournent, il y a des échanges qui se font avec les racines africaines, c'est vraiment fort ce qui se passe. Donc tout ce qui est influence caraïbe, merengue, salsa, machin, ça, ils ont tout bouffé ça et intégré ça, entre autres avec toute la clique Carlinhos Brown et consorts. Ils ont vraiment fait mélanger les styles au possible, ce qui a donné un plus encore à la musique bayanaise. Et puis il y a aussi au nord-est, à Recife, il y a eu le mouvement du Mang Beat. Aussi, ils ont mélangé les sons, le maracatu avec la guitare saturée, maracatu rock. C'est super ce qui s'est passé. Et il y avait Chico Sienz et Nassan Zumbi, Lénine qui mène bien sa barque. Et puis derrière eux, il y a vraiment, vraiment plein d'artistes qu'on ne connaît pas qui font vivre la musique, tout style mélangé, eux-mêmes mélangeant les styles allègrement. Il y a plein de vedettes. Et la moindre variétoche, bon, il y a de la daube, mais quand même, la moindre variétoche là-bas, c'est quand même plus vivant que ce qui se passe ici. Ils ont plus d'apports culturels variés. C'est quand même... Ici, ce qu'on appelle variété, c'est quand même un prout tralala. Là-bas, c'est comme tout de suite, il y a un truc qui est complètement écoutable dès le premier abord. À quelques exceptions, super daubesques, il y a quand même des très bons artistes au niveau national. Et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, tant dans la musique populaire que dans la musique commerciale, que dans la musique savante. C'est une nation musicale. Il y a de la musique tout le temps, partout, live. Le moindre anniversaire dans la campagne ou un moindre mariage, il y a tout de suite un baloche qui s'organise. C'est super parce que les gens dansent, les gens chantent, ils ont une culture de ça. Ce qu'on n'a plus beaucoup ici. Mais heureusement, il y a la Star Academy comment ça s'appelle, nouvelle Star et tout ça, qui redonne un sens musical à la jeunesse française.
Est-ce que tu as des noms de groupes ou d'orchestres à conseiller, si les gens qui ont envie de découvrir un petit peu les différents styles de musique brésilienne?
Pouf! Oh là là. Ario, le roi du pagode, Zeca Pagodinho. Mais tu en as plein d'autres. Tu as Betch Carval, qui est une institution. Et puis toutes les disques des écoles de samba et les disques liés aux écoles de samba, comme les vieilles gardes des écoles de samba, la vieille garde de Manguel, la vieille garde de Portel. Ceux que j'ai cités, Carlinhos Brown pour Bahia, mais aussi d'autres, de plus ou moins bon goût, Margaret Menez, Daniela Mercury, Lénine, Arécif, mais il y en a tellement d'autres. Et puis dans la musique populaire, il y a des trésors aussi qui sont parfois... divulgués par quelques producteurs, quelques productions, genre le label Outro Brasil de Marc Régnier fait un super taf d'aller chercher des gars dans des bleds et de les faire tourner dans le monde entier, des gens qui valent vraiment le coup. Il y a aussi le jazz aussi, dont on n'a pas parlé. Il y a toute une bande, surtout à São Paulo, suite à, bon, il y a le mouvement créé par Hermeto Pascoal, mais il y en a plein d'autres derrière. Beaucoup plus sage même, hein. toute une génération de jazzeux brésiliens qui sont vraiment super bons, un peu sage à mon goût, mais super. Ça chante, c'est le pays de la guitare, on sait pas, il y a l'accordéon, et puis c'est surtout le pays de la guitare avant même le pays d'autres choses, c'est la guitare partout. Il y a des super guitaristes, des super chanteuses. J'en sais rien, il y en a trop. Stop, coupé.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du DVD que tu as réalisé sur le samba de Enredo ?
Alors oui, faisons un peu d'autopromotion. Je suis l'auteur du fameux DVD Au cœur des batteries de Rio, aux éditions Improduction. Et c'est une série consacrée à la percussion du monde. Et le site, c'est lesalondemusique.com, le-salon-de-musique.com. C'est un DVD qu'on a fait en 2001 spécialement sur les batteries de Rio. Il y a un documentaire d'un peu plus d'une heure d'immersion avant et pendant le carnaval au milieu des batteries, voir l'ambiance de fou que c'est. Et puis ensuite il y a une heure et demie de cours avec moi, plus un petit livret de 70 pages avec historique du carnaval et surtout les partoches, pour ceux que ça intéresse, de tous les instruments qu'on a vus tout à l'heure, avec les différents styles des différentes écoles, certaines parties improvisées, jouées lentement, jouées rapide, enfin voilà, il y a six mois d'études pour ceux qui ont envie, et puis pour les paresseux, il y en a pour 10 ans.
Et il est vraiment bien fait.
Merci.
J'apprécie. Et où est-ce qu'on peut jouer du samba sur Paris ?
Alors, il y a beaucoup de cours sur Paris. On a du maracatu maintenant, ce qui m'a manqué beaucoup à mon goût. Mais heureusement, il y a des gens qui se mettent à donner des cours. Du samba reggae, en veux-tu, en voilà, même féminin, mesdames. Je cite le maracatu Ojuoba, le maracatu Pernambucongo, les samba reggae, Mouleketu, il y a Batala, il y a le groupe féminin Zalindé. Et puis en Batuka de façon Rio, il y a Aquarella, il y a les percutéreux de la Beauce à Étampes, il y a Zabumba, et puis il y a aussi Sambatouk où je fais ici. Alors Sambatouk, c'est pas un cours, c'est un groupe dans lequel je chante. Il y a aussi le cours qui s'appelle Sambacademia, sambacademia.com, où il y a cours de batucada, il y a cours de pagode, il va y avoir à la rentrée cours de samba reggae avec moi, Jérôme Boumadil, Borca, ça va être Marivaud, ex-directeur d'Ilaïe, excusez du peu, qui va faire le samba reggae. Il y a des cours de danse, samba et foro. Et c'est qu'un début.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'était Jean-Christophe Jacquin. Dans le prochain épisode, nous verrons les différents instruments du samba présentés par Jean-Christophe. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et à très bientôt sur Section Rythmique.